Dime que son los secretos de tu
Les Racines du Ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Pierrick Charles. Aujourd'hui, je reçois Isabelle Claire pour parler de Krishnamurti. Isabelle Claire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, écrivain. Votre premier livre, Valérie Valère, Un seul regard m'aurait suffi, chez Perrin, fut un best-seller. Vous êtes également rédactrice en chef de Santé Yoga, un mensuel dédié au yoga et au bien-être. Et vous venez de publier, ou plutôt vous allez publier dans les jours qui viennent, Krishnamurti, figure de la liberté aux éditions du Seuil. Alors, je suis très content parce que ça fait longtemps que nous voulions faire une émission sur Krishnamurti. On attendait de trouver l'auteur pour nous en parler. Donc, on profite de l'occasion de la sortie de ce petit livre qui est essentiellement un petit livre d'anthologie, hein, qui est de présentation de textes de Krishnamurti dans cette très belle collection des éditions du Seuil, pour pouvoir parler de cette figure tout à fait atypique de la spiritualité, puisque Krishnamurti n'appartient pas vraiment à un courant très identifié. C'est un homme, une figure très libre, finalement. Donc, le titre est absolument juste le concernant, et c'est un personnage qui a marqué beaucoup de gens, à la fois des scientifiques, des gens complètement athées, des gens de tous les courants religieux. On peut dire vraiment que cette figure atypique a été une des grandes figures spirituelles du XXe siècle. Et avant de parler de son ces différents thèmes qu'il aborde, qui sont très nombreux puisqu'il parle beaucoup de la vie, j'aurais aimé que vous nous racontiez un petit peu déjà sa vie, qui est assez étonnante puisqu'il a un destin extrêmement particulier, qui était comme presque programmé depuis l'enfance pour être un grand spirituel, et on va voir comment il s'est émancipé de tout ce conditionnement. Racontez-nous un petit peu son enfance.
Effectivement, il a subi diverses éducations. Il est né dans un milieu de brahmanes du sud de l'Inde, à Madnapal. Il a été élevé... Enfin, sa mère est morte quand il était assez jeune.
Il est né en quelle année?
Il est né en 1895. Il a été appelé Krishnamurti parce qu'il était le huitième enfant, et en hommage, en l'honneur de Krishna, qui était aussi le huitième enfant. Et puis, il a reçu des initiations brahmaniques, comme tout enfant né dans une famille de brahmanes. Puis sa mère est morte quand il avait 10 ans, et il a été très très malheureux, enfin, ainsi que son frère. Il avait un frère, Nitya. À ce moment-là, son père, n'arrivant plus à entretenir la famille, a trouvé un emploi à la société théosophique d'Adyar. Entre-temps, il jouait sur la plage avec son frère, et il a... un monsieur qui s'appelle Ledbetter, un ex-clergyman qui était ami intime d'Annie Besant, présidente de la société théosophique, l'a vu sur la plage et ça a été vraiment le choc. Il a dit à ce moment-là qu'il n'avait jamais vu quelqu'un avec aussi peu d'égoïsme et avec une aura aussi magnifique. Et ça a été le début pour Krishnamurti d'une autre, une nouvelle éducation chez les théosophes. Nombreuses initiations, on pressent qu'il jouera un rôle très important, qu'il sera le nouveau maître du monde.
L'instructeur
du monde, voilà. Donc ça va durer des années comme ça, on va l'occidentaliser, lui et son frère, les deux sont à la société théosophique.
Je rappelle que pour les auditeurs qui ne connaissent pas, la société théosophique a été fondée en 1875 par Elena Blavatsky, le colonel Olcott aux États-Unis, et c'était au fond une société qui avait pour but de promouvoir une spiritualité non dogmatique, une convergence des différentes traditions religieuses. Elena Blavatsky, qui était une médium russe très particulière, aussi une femme assez extraordinaire, mais soupçonnée de malversation, puisqu'on l'a accusée, finalement, elle faisait apparaître des lettres qui était censé venir de maîtres tibétains. Et puis un jour, on a prise un peu sur le fait en train d'écrire ses lettres. Donc elle a été tout à fait critiquée. Beaucoup de gens ont quitté la Société théosophique. Puis la Société théosophique, qui avait donc une fondation en Inde, a continué avec Annie Besant, qui lui a succédé à la tête. Et puis, il y avait également quelqu'un de très connu, qui est Rudolf Steiner, qui faisait partie de la Société théosophique et qui l'a quitté en 1913 suite à des désaccords avec Annie Besant. Donc je redis ce contexte pour que les auditeurs comprennent que la Société théosophique, c'était un mouvement spirituel un peu syncrétique qui visait à promouvoir
fraternité
une spiritualité
universelle. La fraternité universelle.
Et une spiritualité sans frontières qui prenait et qui s'inspirait beaucoup de l'Inde. D'où la recherche effectivement d'un jeune homme indien qui pourrait être, selon Annie Besant, le futur instructeur d'humanité. C'est un peu les ancêtres du New Age là.
Je crois qu'elle voulait ouvrir, il voulait ouvrir une nouvelle ère christique avec Krishnamurti.
Tout à fait.
Un nouveau Christ.
Donc il reçoit une éducation très forte, à la fois occidentale et traditionnelle indienne.
Des voyages dans l'astral, etc. Il est tout jeune, donc très imprégné par tout ça.
Voilà.
Jusqu'au jour où son frère meurt. Et là, c'était un chagrin terrible, enfin une grande souffrance.
T'es adolescent, non ?
Oui, je pense, adolescent, effectivement. Et ça va être la rupture pour lui avec la Société théosophique à ce moment-là. Parce qu'on lui avait dit que son frère allait vivre, et puis son frère meurt. Et il est déçu, il croit de moins en moins à tout ça. Et il va vivre à fond, comment dire, cette souffrance. Et de cette souffrance va émerger ce qu'il appelle une nouvelle intelligence.
Alors moi, ce que j'aime beaucoup chez Krishnamurti, c'est ce moment de cette rupture où il a été conditionné donc par tout un groupe très nombreux, puissant, riche, qui va le soutenir, qui va en faire une espèce de gourou. Et puis d'un coup, un jour, il va dire dans une conférence devant des milliers de gens, je ne suis pas l'instructeur du monde, je suis moi-même. Il va dissoudre le mouvement.
De l'étoile.
Voilà, l'ordre de l'étoile qui a été créé pour lui.
Exactement.
Par les théosophes.
Et il va dire, la vérité est un pays sans chemin. Et il sera fidèle jusqu'à la fin à cela, à savoir, la vérité est un pays sans chemin.
C'est une très belle phrase, ça, effectivement.
Ouais. Pas de croyance, pas de maître, pas de technique, pas rien. Vivre à fond, enfin à fond entièrement, la relation à soi-même, aux autres, au monde. Et de cette façon, émerge ce qu'il appelle l'intelligence, une intelligence reliée à celle de l'univers. Ce qu'il dit, il l'a vécu. C'est pour ça que c'est extrêmement enrichissant et intéressant.
Oui, il a fondé sa spiritualité sur son expérience.
Voilà, exactement. Lui-même a expérimenté ce dont il parle.
Lélie Anvar, bonjour.
Bonjour. Oui, ce qui est très intéressant, c'est effectivement que devant, vous racontez cet événement où devant 3000 personnes, il dit qu'il n'est pas le grand instructeur. Et il dit effectivement que, en fait, il ne faut pas de maître. Et ça, c'est très intéressant de la part de quelqu'un qui a été élevé dans la culture indienne. Et il est vrai que dans la plupart, sinon la presque totalité des spiritualités, on insiste énormément sur l'importance du maître. Et lui, il renie finalement ce point fondamental. Et à partir de là, il y a cette liberté. Il dit, en fait, même quelqu'un qui me suit comme un maître, en fait, il ne me suit pas. C'est-à-dire que par définition, il ne faut pas me suivre comme un maître.
Il ne veut pas de disciple.
Il ne veut pas de disciple. Et ça, c'est vrai, Frédéric, vous avez raison, c'est très touchant et très impressionnant parce qu'il avait quand même une autorité, une aura, une présence très reconnue. Et beaucoup de gens sont à la recherche de ça plutôt que de le laisser partir.
Vous l'avez rencontré d'ailleurs vous-même?
Oui, enfin, je devais avoir 12 ans. J'étais à Sanan en Suisse, où il donnait des causeries, et je l'ai vu effectivement passer, monter une petite pente herbue. Et j'étais frappée par, à l'époque je ne savais pas nommer, par sa beauté en fait. J'avais l'impression de quelqu'un qui avait tout compris, et effectivement je pense que c'est quelqu'un qui a tout compris, oui. Il rayonnait.
Oui, il était joyeux comme...
Il riait pas, il souriait pas, ça émanait de toute sa personne. Une beauté, un rayonnement, quelqu'un de vrai, dans le vrai.
Il est décédé à 91 ans, je crois.
91, d'un cancer du pancréas, donc en 1986, effectivement.
Et alors pendant,
en
donc,
Californie.
Pendant plus de 50 ans, il a donc parcouru le monde, beaucoup voyagé, enseigné.
Il n'a cessé de donner des causeries, des conférences partout dans le monde. Et aujourd'hui, il est l'un des voilà, entre guillemets maître, j'ose pas dire maître.
Enfin, n'ose plus.
Avec beaucoup de guillemets, maître spirituel les plus médiatisés de la planète, parce que tout est sur le net. Alors là, tous ces entretiens, toutes ces conférences, on ne peut pas l'ignorer.
Alors quels sont les thèmes, on va les étudier les uns après les autres,
oui.
Les thèmes dans cette anthologie que vous avez retenus les plus importants chez lui?
Alors, il dit que tout est relation, que la vie est relation. Relation, s'il n'y a pas de relation, on n'existe pas, on n'est pas vivant. Relation à soi, relation au monde, relation aux autres. Et qu'il s'agit donc de, dans les relations qu'on a, d'en venir au fait. Et, parce qu'il parle des faits et des filtres. Nous sommes pleins d'images, de projections, de conditionnements, d'éducation, de choses qu'on nous a dites, d'idées, de pensées, etc. Bon, il dit non, tout ça, on enlève. Et on en arrive au fait pour avoir des relations entières, sans conflit, sans division, paisible. Donc voilà, un des thèmes, c'est en venir au fait. Il dit qu'il y a une intelligence universelle que l'on a aussi en nous, qui est quand nos actions découle de cette intelligence, elles sont justes et elles ne sont pas conflictuelles, confuses. Je trouve que le monde est très confus et qu'il pourrait ne pas l'être, et cela dans l'instant même. Mais il dit que ça passe par un changement psychologique intérieur de chaque individu et que tout le monde peut le faire. Tout le monde en a la possibilité et que ça peut se faire dans l'instant.
Oui, c'est un des spirituels qui a le plus insisté. Aujourd'hui, on sait que le Dalai Lama en parle beaucoup, mais c'est un des auteurs qui, au XXe siècle, a le plus insisté sur le fait qu'on ne changerait pas le monde en changeant simplement les structures politiques, sociales, économiques, mais en se changeant soi-même.
Voilà.
C'est un des leitmotifs de son...
Absolument.
C'est que la conscience de chaque individu doit se transformer.
Voilà. Donc ça, c'est un des thèmes, donc la vie et relation. Pour lui, vie et mort sont intrinsèquement liées. Alors, le grand obstacle, c'est la peur, oui, parce qu'on s'évade. On a tendance à s'évader et à fuir non seulement la mort dont on a peur, mais aussi la relation quand elle ne nous plaît plus, à changer. Bon. Or, si on arrive à affronter la mort, mais la mort, il parle de la mort qui nous accompagne. C'est vrai que hier, c'est pas comme aujourd'hui, pas comme demain. On meurt constamment. Tout est impermanent et on meurt tout le temps. Donc vie et mort sont liées. Donc il ne faut pas avoir peur de la mort et de se laver d'hier, comme il dit. Il raconte une histoire, là je pense à une histoire qu'il raconte à André Voisin, qui l'a interviewé, les rares interviews en français de Krishnamurti qui sont passées à la télévision. Et il raconte l'histoire de deux moines qui se promènent le long d'une rivière. Et il y a une femme qui pleure, bon... Il lui demande, mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? Et elle dit qu'elle a traversé la rivière le matin, mais que maintenant la rivière est très haute, qu'elle ne peut plus la traverser. Alors l'un des moines l'aide à traverser, la met de l'autre côté. Les deux moines reprennent leur route. Et 2 heures après, il y a un des moines qui dit à celui qui a aidé la femme à aller de l'autre côté, mais enfin, tu sais bien, on a pris des vœux de chasteté, on ne doit pas toucher une femme, etc. Et le moine lui dit, mais c'est toi qui la portes encore, c'est toi qui y penses encore. Et c'est un peu ça, Krishnamurti, c'est... Pourquoi transporter tous ces bagages, enfin toutes ces pensées, dire, mourir à tout ça.
Lily en va.
Oui, il reprend effectivement ce thème de mourir à soi-même, qui est un thème universel. Et c'est vrai que il a rejeté tout ce qui est dogmatique, mais il est profondément indien aussi dans sa pensée de la mort et de l'impermanence des choses. Et il relie. Évidemment, la mort qui est la mort biologique, qui va arriver un jour, à la manière dont il faut vivre. Il voit bien que les choses sont inséparables. Et j'ai effectivement choisi un texte dans lequel il montre très bien cette articulation, et où il montre que le seul moyen de ne pas avoir peur de mourir, qui n'est qu'un changement d'état après tout, eh bien, c'est d'apprendre à mourir à soi-même chaque jour. Et... effectivement, vous avez parlé de la peur. Et la seule chose qui fait que nous avons peur, c'est précisément qu'il y a dans notre vie ces poids de notre propre imagination. Nous croyons qu'il y a des choses qui vont nous faire mourir. Si on accepte de mourir, après tout, on n'aura plus peur. Mais il faut commencer, évidemment, à mourir à soi-même tous les jours, au quotidien. Mais la vie et la mort sont inséparables. Vous ne pouvez pas avoir l'une sans l'autre, si fort que vous aimiez l'une. Vous ne pouvez séparer l'une de l'autre et passer tous les jours de votre vie à tromper la mort. Elle est là, comme votre ombre, nuit et jour, aux heures de sommeil et de veille. Votre maison est plus ou moins permanente, le gouvernement ou un membre de votre famille en hériteront. Votre famille portera votre nom, mais vos proches aussi périront, avec toutes vos croyances, vos peurs, vos fautes. Il n'y a rien de permanent, pas même votre compte en banque, bien qu'il vous soit agréable de l'avoir jusqu'au dernier moment. Rien n'est permanent. Aussi votre cœur dit-il « Vivons au jour le jour ». Mais le jour est plein de chagrin et d'ombre. Plus vous êtes superficiel, plus vous êtes mort. Mais même vous, elle vous attend là, même ceux qui sont l'esprit vif. Nul ne peut l'éviter, quoi que vous fassiez. Elle accompagne la vie. Alors vivez avec elle, mourez tous les jours, comme vous vivez tous les jours. Mourez à tous les chagrins, à tous les plaisirs. N'en gardez pas un enfermé à clé au fond de votre cœur. Mourez à toute chose, à vos souvenirs, à votre jeunesse, à vos dieux, à vos sauveurs, et aussi à votre famille. Soyez en dehors de tout. Ne mourrez pas demain, mais aujourd'hui, à tout ce que vous avez connu. Alors, il n'y aura plus cette peur qui est l'ombre de la mort. Alors vous verrez que la vie n'est pas autre chose, et la mort une autre. La fin, c'est le commencement. Alors l'esprit est au-delà du temps, la peur est le temps, la pensée l'engendre. Avec la mort du passé, des expériences, des souvenirs, des nouvelles et anciennes traditions, l'esprit est régénéré, et il y a l'inconnu, l'incommensurable.
Vous êtes sur France Culture dans Les Racines du Ciel en compagnie d'Isabelle Claire qui nous parle de Krishnamurti. Alors on vient un peu de parler de la vie et de la mort. Il y a un thème aussi qui est important dans sa vie et dans cette anthologie dont vous parlez, c'est la souffrance. Qu'est-ce que dit Krishnamurti par rapport à la souffrance et quel rapport il a entretenu lui-même dans sa propre vie avec la souffrance ?
Alors Krishnamurti a beaucoup souffert, comme on l'a dit tout à l'heure. D'abord, en ayant perdu les gens qui les personnes qui lui étaient les plus chères, sa mère, son frère. Physiquement, il a beaucoup souffert aussi. Il voulait pas de médecin. Il devait passer par ce processus.
Il était malade. Il avait une maladie chronique ou
petit enfant, effectivement, il saignait beaucoup du nez, de la bouche. Il était fragile, effectivement. Oui. Mais toujours, il a été accompagné par une fragilité de santé. Et plus tard, ça c'est devenu assez chronique. Mais il a eu des souffrances physiques, très mal à la tête, très mal au dos, liées aux expériences spirituelles qu'il a eues aussi, ce qu'il appelle le processus. Il ne voulait personne autour de lui. Enfin, il sentait les vibrations des gens, ça le dérangeait. Enfin, il a vraiment beaucoup souffert pour passer à autre chose, ce qu'il appelle l'otherness, c'est-à-dire ses expériences spirituelles. Et il prend l'exemple de quelqu'un, enfin de personnes qui ont perdu leur enfant et qui vont dire « Mais pourquoi ça m'arrive à moi ?» Enfin, qui vont se plaindre, qui vont se morfondre. Et il dit « C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut vivre cette souffrance entièrement sans se demander pourquoi elle est là, d'où elle vient. Et si on vit entièrement ce qu'on est en train de vivre, à savoir la souffrance, Ça va se dissoudre et autre chose va apparaître, une flamme, une intensité.
Et d'ailleurs, quand il raconte l'expérience qu'il a eue de la mort de son frère, il le dit bien, c'est-à-dire, il dit « j'ai vécu cette souffrance, je ne l'ai pas rejetée ». Et on voit qu'il y a un rapport à la souffrance très intéressant qui peut-être, je parle sous votre contrôle Frédéric, mais qui peut-être se rapproche beaucoup au statut de la souffrance dans le christianisme. C'est-à-dire qu'il y a cette souffrance du corps, des émotions, enfin du corps dans un sens large évidemment, qui est une sorte de purification, comme si ça donnait accès à une nudité de l'âme, de passer par la souffrance individuelle. Je ne sais pas, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai eu en vous lisant qu'il y a chez Krishnamurti vraiment un rapport très particulier. La souffrance n'est pas du tout à rejeter parce qu'elle permet d'accéder à une purification.
Non, Lily, vous êtes incontrôlable. Mais néanmoins, je suis d'accord avec ce que vous dites. Je trouve qu'il a un côté très christique dans la manière dont il parle de la... Je dirais plus christique que chrétien. C'est-à-dire qu'il christique. N'est pas du tout dans le dolorisme.
Il était pressenti pour devenir le nouveau Christ.
Voilà, c'est ça. Ouais. Mais il a effectivement un discours christique. C'est-à-dire que Jésus ne prône absolument pas la recherche des mortifications. Mais il dit lorsque la souffrance arrive et qu'on n'y peut rien, hein, voilà, elle peut à ce moment-là, selon le regard qu'on porte sur elle, la manière dont on la vit, dont on peut l'offrir, entre guillemets, c'est-à-dire ne pas être écrasé par elle, elle peut nous conduire l'être à se purifier, à se transformer et à aimer davantage. C'est-à-dire qu'il y a des souffrances qui écrasent et il y a des souffrances qui font grandir parce qu'on accepte la vie comme elle est et qu'on ne cherche pas à se révolter ou à s'interroger, mais simplement faire que cette souffrance inévitable nous permette, comme cette phrase des évangiles, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, ne porte pas beaucoup de fruits, que ça va nous broyer quelque chose en nous, dans l'ego, dans le cœur, etc., qui va nous faire grandir finalement. Et ça rejoint un petit peu aussi donc, ce qu'on peut dire de théories comme celle de la résilience, de Boris Cyrulnik, etc., un certain nombre de psychologues contemporains qui montrent comment des gens qui ont connu des grandes souffrances, ça peut être un moteur dans l'existence pour finalement aller plus loin et connaître des sursauts, des croissances de vie. Et donc, il ne faut pas avoir un regard systématiquement négatif sur la souffrance.
En même temps, je ne pense pas qu'il s'agisse de regarder la souffrance, puisque pour lui, il n'y a pas de séparation entre l'observateur et l'observé. Il s'agit vraiment de la vivre.
De l'accueillir, oui.
De la vivre complètement, parce qu'on est cette souffrance. Enfin, c'est ce qui,
tout à fait.
C'est ce qu'il dit, être ce qu'on est dans l'instant.
Quand je parlais d'un regard, c'est en fait une attitude.
Une attitude.
Une attitude par rapport à la souffrance, par rapport à l'événement.
Et alors, concrètement, comment il recommandait de travailler sur cette question? Parce que ce n'est pas si facile. Alors, quand il dit, oui, l'accueillir, ça veut dire quoi exactement, accueillir la souffrance?
Quand on lit ces textes, on s'aperçoit que par moments, il était terrassé, il ne pouvait plus bouger, et il avait extrêmement mal. Il vivait ce qui se passait, il ne rejetait pas, il accueillait, oui, il était cela. À ce moment-là.
Oui, mais est-ce qu'il y a un recours, par exemple, parce que lui, il le vivait comme ça, mais comment il recommandait de le... C'est pas si simple d'accueillir la souffrance. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut avoir recours à une transcendance? Est-ce qu'il faut se représenter autre chose? C'est très difficile de juguler la souffrance et de la laisser venir.
Ou de la transformer.
Ou de la transformer, oui.
Pour lui, ça se fait tout seul. C'est-à-dire, une chose, bon, la souffrance pleinement vécue donne naissance à autre chose, à une intensité, à une flamme, elle se dissout, surtout elle disparaît. Enfin, c'est ce qu'il dit.
Oui, c'est qu'à partir du moment où on accueille les choses en ouverture, elles se transforment et disparaissent, ça devient autre chose.
Voilà. C'est le mouvement de la vie.
Il y a quand même quelque chose qu'il a beaucoup prôné et vécu aussi, c'est la méditation. C'est quand même un travail, des techniques. Il a prôné un certain nombre de... Enfin, peut-être pas des techniques en ce qui le concerne, mais en tout cas, une attitude... d'être dans lequel on s'intériorise, dans le silence, pour essayer de transformer les émotions négatives, on dirait ça plutôt aujourd'hui en termes bouddhistes, mais en émotions positives, pour essayer de travailler sur soi. Il pratiquait la méditation, ou une forme de méditation.
Il méditait, oui, et en même temps, il dit que si on médite selon une technique, ça n'est pas la méditation, ça n'est plus la méditation. Que la méditation ne se cherche pas, c'est un état qui est là. On ne fait pas une méditation. C'est un état qui est là quand le méditant n'est plus là. C'est ce qu'il dit, en tout cas. Donc, c'est pas simple à expliquer. Il y a des moments où il n'y a plus de mots pour dire les choses. Krishnamurti le dit lui-même, d'ailleurs, bien qu'il emploie beaucoup de mots. Il ne parle pas de technique, il dit non, s'il y a une technique, ça n'est plus la méditation.
Oui, c'est pour ça que j'ai enlevé le mot technique tout à l'heure.
Oui.
Mais c'est quand même une pratique. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un état d'être. Il y a aussi un moment donné, des moments où il est en silence. Et il faut pratiquer ces temps d'intériorisation, de silence.
Il a beaucoup été effectivement en silence et... Quand il était en Californie, à Ojai, il se promenait énormément dans la nature il était en silence. Et c'est vrai qu'il décrit des moments où il n'y a plus de distance entre lui et ce qu'il voit, la montagne, les arbres. Et pour lui, c'est un état de méditation. Il n'y a plus la distance. Parce qu'on peut marcher, peut être une méditation bien aussi. Sûr, oui. On n'est pas obligé de s'asseoir en lotus.
Et il dit d'ailleurs très souvent, c'est intéressant, que la vraie méditation doit être... C'est un état naturel de l'homme.
C'est l'état
Et c'est
naturel.
Une sorte de communion voilà. avec
c'est
les choses...
C'est retrouver son état naturel, effectivement. Derrida, il emploie souvent le mot communion au lieu du mot communication. On communique beaucoup aujourd'hui, mais peut-être ne communit-on pas au sens de se rencontrer dans cet état naturel, voilà.
D'ailleurs, vous avez raison de dire que c'est très difficile à mettre en mots, et c'est peut-être la raison pour laquelle il emploie justement très souvent des métaphores pour dire ça. Alors, par exemple, pour la méditation, il dit bien « la méditation est la flamme qui brûle intensément sans laisser de cendre », comme si on ne pouvait pas expliquer autrement que par des images. Justement, les mots, le sentiment et la pensée en laissent toujours, et la vie du monde repose sur des cendres. La méditation est danger, car elle détruit tout. Absolument rien ne reste, pas même un souffle de désir. Et dans ce vide immense, insondable, il y a création et amour. Et c'est quand même très intéressant de dire que la méditation détruit tout, l'ego en particulier.
Comme elle détruit tout, effectivement, il y a création parce qu'il y a neuf. L'inconnu surgit, l'inconnu, le nouveau, ce qu'on n'attend pas, qui est création, effectivement, oui.
Ce qui prône beaucoup, c'est une forme d'état de lâcher prise, on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire d'abandon, d'ouverture, de lâcher prise, c'est-à-dire ne plus être dans le contrôle, dans le vouloir, dans la volonté, mais d'être dans l'ouverture.
Avant d'y arriver, peut-être qu'il faut vivre sa peur, enfin, vivre la peur de ça, parce que ça peut faire peur, effectivement, de ce saut dans le vide, là. C'est un peu ça qui nous demande. Il y a des peurs, bien évidemment, donc avoir conscience, le vivre, et après, ça se fait peut-être tout seul, à un moment donné, un déclic.
Vous êtes sur France Culture dans les Racines du Ciel en compagnie d'Isabelle Claire. Nous parlons de Krishnamurti à l'occasion de la prochaine sortie du livre Krishnamurti, figure de la liberté aux éditions du Seuil. Alors, nous avons évoqué déjà quelques thèmes, il y en a beaucoup, on va continuer un petit peu pour essayer de comprendre la pensée à la fois simple et complexe de Krishnamurti, parce que ce n'est pas un penseur classique qui ne développe pas des théories, c'est plutôt quelqu'un qui donnait des causeries très spontanées, donc c'est une pensée assez intuitive. La nature est assez présente aussi, visiblement, dans sa pensée. Vous nous le disiez à l'instant, il aimait méditer dans la nature, il avait un sentiment de non-dualité entre lui et le monde, donc c'est plutôt une expérience contemplative qui nourrit son enseignement également, Isabelle Claire.
Oui, il voit les choses très, très directement, et du coup quand il en parle, il nous inclut, enfin je veux dire, nous sommes inclus dans ce qu'il voit directement, sans filtre, sans... Oui, qu'on peut dire que...
Est-ce qu'il utilisait beaucoup d'images empruntées à la nature dans son enseignement ?
Avant de commencer un enseignement, très souvent, il décrivait la nature, il décrivait ce qui l'entourait. Et puis, quand il y avait un oiseau par la fenêtre, il lui arrivait de dire « Bon, voilà, il y a un oiseau, s'est posé là, l'enseignement est terminé. » Voulant dire que cet oiseau, cette présence de l'oiseau était beaucoup plus importante que tout ce qu'il était en train de dire. Ramenant donc, une fois de plus, au fait, enfin au réel.
À la vie telle qu'elle est.
À la vie telle qu'elle est, ce qu'il n'aura cessé de faire, oui.
Et les arbres aussi jouent un rôle très fondamental. C'est vrai que c'est cette anecdote de l'oiseau, les oiseaux sont d'ailleurs associés aux arbres chez lui. Oui. Mais en effet, c'est quand il parle de beauté et d'amour qu'il entend cet oiseau chanter. Il leur dit, bon, ce n'est plus la peine de gloser sur cette question. Mais il dit la même chose des arbres. C'est-à-dire, souvent, il enseigne même en Californie, il est entouré d'arbres.
Oui, il se mettait sous un grand poivrier et il enseignait sous ce grand poivrier, effectivement, oui.
Ça rappelle d'autres grandes figures qui enseignaient sous des arbres. Et il y a la présence de l'arbre et de l'océan. Et je crois que la nature dans laquelle il vivait en Californie lui rappelait peut-être la nature dans laquelle il avait vécu enfant. En tout cas, il a ces évocations où il dit carrément « j'étais l'arbre ». Quand il écrit des lettres ou dans ses carnets, il dit je me suis senti l'arbre, je me suis senti l'océan. Enfin, il entre dans les éléments naturels.
C'est toujours la même chose, oui, cette communion qu'il a avec la vie. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de séparation pour lui.
Donc c'est la voie de la non-dualité absolue.
Exactement, oui. Il dit que les arbres sont ses amis, il le dit à plusieurs reprises.
Est-ce qu'il avait un rapport particulier avec les animaux ? Est-ce qu'il avait des animaux domestiques, par exemple, ou pas spécialement ?
Je ne suis pas au courant. Ou alors, il les a bien cachés,
mais dans son son enseignement, est-ce qu'il parlait de la souffrance animale, par exemple ?
Ah, il dit, à un moment donné, que lui, il n'a jamais mangé de viande, mais ça, c'est son éducation brahmanique, que dans 300 ans, plus personne ne mangerait de viande et qu'on ne devait pas manger de viande ni tuer d'animaux. Effectivement, oui.
Et on voit d'ailleurs en cela, en d'autres, ce qu'il dit sur la méditation, on voit quand même l'influence très très forte de ce respect de la vie qui est très très prégnant dans la culture indienne. Il me semble que là, il y a quelque chose, entre autres le végétarianisme, ou le respect profond pour tout ce qui est
tout
naturel.
Est vivant, ouais.
Oui.
Notamment dans le bouddhisme. Dans la culture indienne, ça dépend, parce qu'il y a aussi, dans certaines traditions des sacrifices d'animaux. Tout dépend où.
Oui, absolument. Oui, oui, non, mais de la culture indienne qu'il a reçue.
Brahmanique, oui, effectivement.
Vous nous disiez qu'il avait fait une sorte de prophétie en disant « dans 300 ans, plus personne ne mangera de viande ». Est-ce qu'on peut dire qu'il a annoncé une transformation de l'humanité ? Est-ce qu'il l'annonçait ? Est-ce qu'il était prophète de quelque chose, de ce que deviendrait l'humanité, au-delà de la viande, mais c'est un symptôme de quelque chose de plus profond, évidemment.
Mais déjà dans les années 60, 70, il sentait ce qui était en train d'arriver. Il disait « la maison brûle », en parlant du monde. Il pressentait... L'afflux, il parlait de technologie, enfin, il y avait toutes les découvertes qui se faisaient à l'époque, il pressentait encore plus de violence, toujours plus de violence et toujours plus de pression sur les hommes. Et il disait, la maison brûle, dépêchez-vous.
Dépêchez-vous de vous transformer.
Oui, ça.
Si vous voulez survivre dans un monde de plus en plus dur.
Et je pense que sa parole, justement, et ce qu'il dit, est très contemporain aujourd'hui, où on a tout, c'est vrai. Toute la vie peut être très facilité, et donc on pourrait gagner le temps de l'écouter et de se transformer pour un monde moins confus et plus paisible peut-être. Je pense qu'il a été précurseur, ouais.
Il se situait toujours dans aucune tradition particulière, c'est-à-dire pour lui, peu importe qu'on soit juif, chrétien, bouddhiste, musulman, ça n'avait pas d'importance.
Aucune.
Il disait dans toutes les traditions, ou sans tradition, vous pouvez faire ce travail.
Absolument, ce qu'il dit s'adresse vraiment à tout un chacun, à tout le monde.
Sans doute pour ça qu'il a touché tout un certain nombre d'athées aussi, de gens qui se considèrent comme des... à la recherche de, c'est peut-être un des précurseurs de la spiritualité laïque, telle qu'on en parle aujourd'hui.
Absolument, je pense.
Et là, ça rejoint cette liberté qui est un des thèmes fondamentaux chez lui. C'est qu'il il voulait appartenir à aucun courant, il refusait d'être un gourou pour les autres, etc. Donc il prônait une liberté pour lui, pour les autres. C'est vraiment le leitmotiv de tout son enseignement, cette liberté intérieure.
Il faut dire que pendant des années, il ne l'a pas été. Et il a cru. Il a cru à tout ce qu'on lui a fait faire, toutes ses initiations, etc. Puis tout d'un coup, il a dû réaliser, ah ben non, 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 c'est pas vrai pour moi, en tout cas. Et donc il a dû faire tout un chemin lui-même, effectivement, pour se libérer. Donc après, il dit à un moment donné, j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré, et je ne veux pas que les autres pleurent. Alors je vais leur dire comment faire, enfin même, voilà. Et c'est un peu tout ce qu'il a fait tout le reste de sa vie. Dire aux gens comment faire pour ne pas, pour être libre, ouais.
Oui, parce qu'évidemment, c'est en se libérant intérieurement qu'on peut se libérer aussi, même socialement. En tout cas, la liberté ne peut jamais venir de l'extérieur, mais elle doit toujours Absolument. Être d'abord un mouvement intérieur. Et voici ce qu'il en dit dans ses carnets. Il s'agit d'être libre, non à l'égard de la société, mais à l'égard de l'idée. Alors la relation, la société, ne conditionne plus l'esprit. L'ensemble de la conscience est un résidu qui change, se modifie, s'adapte, et la mutation n'est possible que lorsque le temps et l'idée ont pris fin. Cette fin n'est pas une conclusion, un mot à détruire, une idée à rejeter ou à accepter. Sa compréhension passe par la connaissance de soi. Connaître n'est pas apprendre, car savoir, c'est reconnaître et accumuler ce qui constitue un obstacle à l'acte d'apprendre. Amasser un savoir, même aux limites élargies, devient mécanique, et un esprit mécanique n'est pas un esprit libre. L'esprit se libère du connu par la connaissance de soi. Vivre une vie entière dans l'activité du connu provoque un conflit, une souffrance infinie. Donc il s'agit pour lui de se libérer aussi du savoir, de toute forme de connaissance. Et là, il rejoint aussi l'idée que c'est dans le non-être qu'on peut atteindre au véritable être.
En étant rien, à un moment donné, il dit, n'être rien, c'est commencer à être, effectivement. Oui, il a fondé des écoles.
Oui, ça ouais. C'est très intéressant, son activité pédagogique, écoles dans lesquelles on apprend à apprendre.
On apprend à apprendre, oui, c'est exactement ça. Ouais.
Alors, de quelle manière ?
On ne farcit pas le crâne ou le cerveau de connaissances. Il y a un de ses élèves qui témoigne, je le cite dans le livre, je n'ai plus les paroles exactes, mais chaque jour, on ne sait pas très bien ce qui va se passer, ça dépend de l'instant, ça dépend de la situation, tout est fluide, fluctuant. On apprend à être, on apprend à se connaître et à connaître le monde. C'est plutôt ça qu'on apprend.
C'est plutôt des écoles de vie intérieure.
Des écoles de vie, ce qui ne veut pas dire, je pense, il y a aussi un enseignement,
comment réagir face aux événements de la vie, c'est-à-dire comment, face à la vie, avoir une attitude juste,
oui,
qui permette de grandir, oui. De surmonter la souffrance, de la transformer, d'être dans une acceptation du réel, etc.
Voilà, je pense qu'on apprend quand même les matières, oui, dans ces écoles. Il y en a deux en Inde et une en Angleterre. Ça continue. Enfin, il y a toujours des élèves. Enfin, les écoles sont florissantes.
En tout cas, si j'ai bien compris, l'idée, c'est que on va pas sanctionner un savoir. C'est-à-dire, voilà. C'est pas un système avec des examens où on sanctionne une accumulation de savoir, où on note, en tout cas, une accumulation de savoir, mais plutôt où on apprend comment, avec ces savoirs, arriver à enrichir sa propre vie intérieure. Si j'ai bien compris, quel
était
ça ?
L'art de vivre. On apprend à vivre. Oui. L'art de vivre. Et non pas, ne pas devenir mécanique, ne pas accumuler un savoir mécanique, pour que la création puisse, le neuf puisse surgir, laisser l'ouverture.
Mana kun.
Suivons cet échange avec Isabelle Claire sur Krishnamurti. Il y a un point dont on n'a pas du tout parlé jusqu'à présent, c'est la sexualité. Est-ce que c'est quelqu'un qui, visiblement, il a été célibataire, enfin, il me semble. Est-ce qu'il a été marié? Est-ce qu'il a eu des enfants? Est-ce que, s'il n'a pas été marié, est-ce qu'il a eu des compagnes? Comment est-ce qu'il vit sa sexualité et comment est-ce qu'il en parle?
De ce qu'on sait, il a eu longuement une compagne, enfin, oui, pendant au moins 25 ans, Rosalinde, qui était l'épouse de Rajagopal, avec qui il a été associé pendant longtemps. Et souvent, dans les carnets, il parle de l'autre personne sans la citer. Mais on a l'impression qu'elle est là, qu'elle est avec lui quand il vit toutes ses expériences. Il dit que l'autre personne vit aussi ses expériences. C'est un état qui englobe tout. Et pour lui, la sexualité, bon, il répond à des étudiants, à des disciples qui lui posent des questions à ce sujet. Il dit que tout ce qui est vécu, la sexualité y compris, avec quelle que soit la situation, quand c'est vécu chastement, enfin avec innocence, ça n'est pas un problème. C'est une façon de vivre les choses, une fois de plus.
Lily ?
Oui, mais effectivement, il répond. Mais c'est vrai qu'on ne le sent pas complètement à l'aise dans cette réponse qu'il donne, parce qu'il dit « oui, vous pouvez le vivre, mais finalement, ne pas vouloir avoir de sexualité, c'est une manière aussi de fuir ou d'être dans la peur. Mais avoir une sexualité qui vous attache trop, c'est aussi quelque chose qui n'est pas tout à fait recommandé. » Et donc, il fait un peu... Enfin, j'ai l'impression que là, sur ce point, il ne va pas au cœur du sujet comme il le fait sur d'autres sujets. Et il dit, bon, donc finalement, faites comme vous voulez, mais il faut être détaché, c'est tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas évident pour un disciple de concrètement de travailler sur un conseil qui ne dit pas...
Il dit, la sexualité est une fleur délicate, quelque chose de délicat, à ne pas traiter n'importe comment. Et que peut-être il y a une maturité à avoir, une compréhension à avoir. Il dit que l'amour comprend la sexualité aussi, n'est pas un état à chercher. On ne cherche pas l'état d'amour on ne le sollicite pas, il arrive, il est là. Et à ce moment-là, on le vit. Vivre ce qu'il y a à vivre, sexualité, amour, et quand c'est vécu dans une certaine attitude, il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas la sexualité pour combler un manque, pour combler un vide. Ce n'est pas la sexualité liée, enfin, comme souvent ça arrive avec possessivité, jalousie, parce que là, ça devient l'enfer et donc ça n'est plus...
Oui, c'est ça. Quand la tu parles d'aimer, ou... il dit quand on dit je t'aime, finalement, qu'est-ce qu'on dit ? À part une peur, un attachement, un besoin de sécurité.
Voilà, souvent c'est le besoin de sécurité.
Même quand on aime Dieu, dit-il.
Même quand
c'est
on
souvent
aime
par
Dieu,
désir.
Ou même
de...
quand on aime la musique, un musicien qui aime sa musique. C'est souvent pour l'image de lui en tant que musicien, pour la reconnaissance, et ça n'est plus la musique.
Vous venez parler de Dieu, Lely. Est-ce qu'il parlait de Dieu, Krishnamurti, ou pas ?
J'ai entendu dire justement dans cette interview en français que Dieu était un mot un peu trop galvaudé. Non, il n'en parle pas. Pas tellement, non, il n'en parle pas. C'est un mot trop...
Oui,
à toutes les sauces, ouais, ce mot d'accord. est utilisé.
Donc il évite de l'utiliser.
Il évite de l'utiliser, oui. Il parle de l'otherness en anglais, qu'on pourrait traduire peut-être par le tout autre. Mais c'est pas... Il ne dit pas que c'est Dieu.
Mais est-ce qu'il y a l'idée quand même que c'est une entité que l'on rejoint après la mort ? Puisqu'il parle,
il croyait en quoi après la mort d'ailleurs ? Est-ce qu'il disait quelque chose sur le... Est-ce qu'il croyait à la réincarnation, la transmigration des âmes comme les hindous
quand
ou pas ?
Quand on l'a interviewé là-dessus, justement, il répond pas, il revient à la mort, à la mort à chaque instant.
Alors, on dit peu importe, vivons bien et on
voilà,
verra quoi.
Voilà, ce qui se passe après... À un moment donné, il dit qu'on a créé d'autres hiérarchies. Il y a déjà une hiérarchie dans la vie. Et puis après, avec une autre hiérarchie, après la mort, les anges, Dieu, enfin... Et que tout ça prête à confusion, que ce n'est pas le réel, le fait.
Oui, et d'ailleurs, finalement, si on devait résumer le point commun entre tout ce qu'on a dit sur sa pensée, ce serait cette idée de l'instant. Tout se résout dans des instants qui, pour lui, sont des moments d'infini. Ça, c'est intéressant. D'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure de la physique moderne et de la manière dont, lui, il avait pressenti un certain nombre de choses. C'est vrai que c'est un concept intéressant de se dire qu'il y a, dans l'instant, l'infini. Et la question du temps doit être absolument dépassée, la question du temps tel que nous la concevons.
La question du mesurable. Il dit que la pensée mesure, c'est le mesurable, aller au-delà de la pensée. S'en servir de la pensée quand elle est nécessaire.
Il a eu des dialogues avec des physiciens comme
avec David Bohm, notamment.
Sur le temps, oui. Et ce que vous dites, Lely, sur la nécessité de dépasser les catégories de l'espace et du temps qui nous conditionnent pour vivre dans l'instant, et que c'est dans l'instant qu'on est créatif, et que tout peut se transformer.
Oui, c'est la pensée qui crée le temps psychologique.
Et
à partir du moment où il y a plus. On parle beaucoup du cerveau, du vieux cerveau. Grenier du passé, grenier de la mémoire, des souvenirs, et d'un autre cerveau, d'autres cellules dans le cerveau, neuves et créatrices, et qui, effectivement, là, il n'y a plus le temps construit, le temps de la pensée.
Et même l'amour, d'ailleurs, est une expérience qui n'a de réalité que si ce n'est pas quelque chose, justement, une pensée construite et continue, une émotion construite et continue, mais bien... quelque chose qui est donné à des instants très particuliers, non contrôlés d'ailleurs, et qui adviennent comme cela. Et il a un très beau texte dans ses carnets là-dessus qui m'a beaucoup touchée justement, parce qu'il montre que finalement l'amour, c'est pas du tout ce que l'on croit. C'est juste cette communion d'un instant avec les choses, avec des choses qu'on n'avait peut-être pas regardées comme il faut avant. L'amour n'est pas chose courante, mais il était présent dans la hutte où brûlait la lampe à huile. Il était avec cette vieille femme transportant sur la tête une lourde charge, avec ce garçon nu balançant sur un fil un morceau de bois qui lançait des étincelles, son feu de Bengale. Il était partout, si abondant qu'on aurait pu le ramasser sous une feuille morte, ou dans ce jasmin, près de la vieille masure croulante. Mais chacun était occupé, affairé et perdu. Il était là, emplissant le cœur, l'esprit et le ciel. Il demeurait et ne s'en irait jamais. Il faudrait seulement mourir à toute chose, sans racine, sans une larme. Avec un peu de chance, il viendrait alors à vous, si vous cessiez pour toujours de le poursuivre, de supplier, d'espérer, de pleurer, indifférent à lui, mais sans souffrance, la pensée laissée au loin.
et il serait là, sur cette route sombre et poussiéreuse.
Cette émission des Racines du Ciel touche à sa fin. Vous vouliez, Isabelle Claire, nous parler d'un film de Buñuel qui vous a beaucoup marqué.
C'est le premier film de Buñuel, donc un chien andalou. C'est des images chocs, enfin, c'est le surréalisme, etc. C'est très irrationnel. Mais il y a deux images qui m'ont particulièrement marqué et qui m'évoquent Krishnamurti. Sont très violentes. La première image, c'est une lame de rasoir qui ouvre un globe oculaire, qui ouvre un œil pour un autre regard, justement. Buñuel expliquera pourquoi il a montré cette image. Et Krishnamurti ne nous invite qu'à ça, un autre regard. Et autre image, on voit Dali, jeune, porté au bout d'une corde, un piano, des ânes morts sur le piano, des séminaristes, etc. Et ça m'évoque aussi beaucoup Krishnamurti, lorsqu'il parle de toutes ces... Il ne dit pas les casseroles, il ne dit pas casseroles, mais entre guillemets les casseroles qu'on se transporte et qu'on pourrait ne pas transporter. C'est pour ça que ce film, Un chien andalou, m'évoque Krishnamurti à contrario, en fait.
D'accord. Voilà. Je rappelle votre livre... qui va sortir le 5 novembre, Krishnamurti, figure de la liberté. C'est une anthologie de textes de Krishnamurti. Donc si vous voulez vous plonger dans les textes, on en a déjà lu un certain nombre d'entre eux, mais il y en a beaucoup d'autres, aux éditions du Seuil. Et puis je rappelle que vous êtes rédactrice en chef du très bon magazine que je connais, Santé Yoga, qui est un mensuel consacré donc au yoga, au bien-être, à la spiritualité. Merci beaucoup d'être venu nous voir et nous parler de Krishnamurti.
Merci.
Vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine et la réécouter pendant un mois sur notre site internet franceculture.fr. La semaine prochaine, je recevrai l'astrophysicien Trinh Xanh Tuan. Tout de suite, vous retrouvez le journal de 8h. Bon dimanche à tous, à la semaine prochaine.